Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de nos soi-disant représentants, comme par exemple François Fillon, notre feu-feu départemental devenu Premier ministre, après avoir été sénateur, député, président du Conseil régional des Pays de la Loire, président du Conseil général de la Sarthe, conseiller régional, conseiller général, maire, conseiller municipal. Ben, il se serait bien vu président de la République en 2017. Seulement, voilà, il fut rattrapé par une sombre histoire de détournement de fonds publics. Un détournement qui a commencé il y a presque 40 ans, en 1986. C'est-à-dire au moment où Pénélope Fillon, femme de feu-feu, était embauchée par lui-même comme assistante parlementaire. L'ensemble des salaires versés jusque dans les années 2010 est de 600 000 euros pour une activité que les juges ont considérée comme plutôt fictive. Depuis avril 2024, le couple Fillon et Marc Joulot, suppléant de feu-feu à l'Assemblée nationale et qui avait aussi embauché Madame Fillon, bah oui, ont été définitivement condamnés pour détournement de fonds publics. Mais l'audience du 29 avril 2025 servait à définir la peine contre le trio. Les réquisitions sont lourdes, mais ne demandent plus de prison ferme pour François Fillon. Le moment n'est pas très propice pour les droitards méprisants qui nous bassinaient les rouleaux avec des efforts à faire pour sauver le pays de la faillite entre 2007 et 2012. En clair, durant le mandat de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui se balade d'ailleurs pour sa part avec un bracelet électronique pour ses procès du moment. Oui, il lui en reste. Mais qu'on se rassure, que ce soit pour M. Fillon ou pour M. Sarkozy, la vie ne va pas si mal. Par exemple, on apprend lors de l'audience du 29 avril, François Fillon nous dit qu'il a des revenus de 485 000 euros annuels pour ses activités de conseil et de membre du conseil d'administration d'une entreprise russe en particulier. Eh bien, ça fait quand même 40 000 euros mensuels. Il la vit bien, cette déchéance morale dont il nous bassine aussi les rouleaux. On aurait pu vous parler de mélange des genres. Le maire de Sète, François Comine, déjà condamné pour avoir filé un chantier à son neveu sans appel d'offres, se voit de nouveau condamné cette semaine pour avoir donner des primes à des municipaux sans justification. Eh, pas le municipal moyen, hein. Non, plutôt des chefs de service et compagnie. Condamné définitivement mercredi 30 avril, il a démissionné dans la foulée. Bon, il va falloir leur dire un peu plus clairement à nos soi-disant représentants, à tous les échelons, que ça soit au niveau de la commune ou au niveau de l'État, ils ne possèdent pas les caisses du territoire qu'ils administrent. Nos soi-disant représentants ne sont que les dépositaires du pouvoir prêté par la population. Un pouvoir qui appartient au peuple en démocratie. Un pouvoir prêté pendant un mandat qui a un temps donné. Il va falloir le répéter à nos soi-disant représentants, l'argent, les fonctionnaires territoriaux, les moyens des collectivités ne vous appartiennent pas et ne doivent pas donc servir ni vos carrières, ni à donner des cadeaux à la famille ou aux copains. Personnel politique, ce n'est pas un métier. Alors, ben, le mieux, ce serait peut-être d'arrêter d'essayer d'en faire une carrière et de trouver une vraie occupation. On aurait pu vous parler de corruption. Ah ben, décidément. Jeudi 24 avril, l'Agence française anticorruption, qui est une agence d'État créée en 2016, peut-être l'une de celles que Amélie de Montchalin veut faire sauter pour faire des économies, eh bien, cette agence française anticorruption a produit une note sur les atteintes à la probité en France depuis 2016. Elle s'est appuyée sur les statistiques faites par le ministère de l'Intérieur pour faire cette note en question. En 2016, on était à 619 atteintes à la probité. En 2024, à 934. Ça peut paraître pas grand-chose sur toute une année, mais quand même, il y a presque 50% d'augmentation. Et surtout, en matière de corruption, on est passé de 167 atteintes à la probité en 2016 à 324 en 2024. Là, ça a carrément doublé. Enfin, dernier élément, sur les presque 200 000 personnes qui ont été sollicitées pour rendre un service contre du pognon, nous dit la note de l'Agence française anticorruption. En clair, eh bien, des gens à qui on a proposé un petit peu de pognon contre un service, 1% seulement a porté plainte, nous dit la note, ce qui montre une sous-évaluation énorme des faits dans les statistiques officielles. On vous laisse avec ça. Il apparaît que la France devient de plus en plus corrompue et ceux qui sont en charge de soi-disant nous représenter se laissent aussi un petit peu corrompre. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses. Tiens, Betaram, oui, ça continue. On aurait pu également vous parler de choses plus sympathiques comme par exemple la résistance de Extinction Rébellion qui est partie demander à taxer les riches dans un quartier parisien de Rupin. Mais finalement, on a décidé de vous parler de travail. Le 1er mai est devenu un jour férié et chômé depuis la loi du régime de Vichy de 1941. C'était la fête du travail et de la concorde nationale. Oh pardon, et de la concorde sociale. Excusez-moi, nationaliste, pétinisme, tout ça étant tellement lié. Donc du coup, eh bien, le régime de Vichy avait inventé cette fête du travail et de la concorde sociale en 1941. En 1945, le jour férié est supprimé, puis réinstauré l'année suivante, mais sans l'intituler. Pourtant, la propagande continue dans les médias, et bien sûr à droite et à l'extrême droite, à nous faire croire que c'est la fête du travail. Par exemple, jeudi 1er mai 2025, Julien Oudou, le député du RN, a tweeté « Le 1er mai, c'est la fête du travail, pas de l'assistanat ». Rappelons que le personnage a été condamné en première instance dans l'affaire des emplois fictifs du RN. Du coup, il s'y connaît en assistanat, puisqu'il était payé pour faire on ne sait quoi, mais pas le boulot pour lequel il recevait un salaire. Dans son tweet, il fait du 1er mai la fête du travail. Hommage, s'il en est, à la période de Vichy. Pour les partis de gauche, en intégrant le PS, allez, soyons pas chiens, et les syndicats de salariés, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et travailleuses. La fête des exploités, pas celle d'une idée saugrenue selon laquelle il faudrait perdre sa vie à la gagner, notamment en créant de la richesse accaparée par des employeurs. En France, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce 1er mai 2025 où ont défilé dans les 260 manifestations déclarées par la CGT. Bon, CNews en annonce 150. Il faut dire qu'en matière de désinformation, il se pose là. Au Mans, on compte un millier de personnes dans le cortège qui est parti de la place des Jacobins pour y revenir, après avoir fait un petit tour vers la préfecture et la REP. Et Vasik Sabatouk, en tête de cortège, une banderole du collectif 72 pour un climat de paix. Un collectif qui réclame une meilleure répartition des richesses et pas de thunes pour les militaristes. Une banderole de résistance, pas trop dans l'air du temps, puisque en ce moment, on veut nous faire croire que c'est la guerre incessamment sous peu. Derrière, on trouvait un camion de la CGT et une batouk. Batouk, mais pas que, aussi des anticapitalistes. En l'occurrence, un cortège un peu touffu avec Révolution Permanente et le NPA révolutionnaire, pas l'autre, hein, ainsi que quelques antifas. Et puis, des militants LFI et du PCF, des syndiqués CGT, FSU, CNT. Ah tiens, la CFDT et l'UNSA ne sont pas là. Le 1er mai est l'occasion de s'interroger sur le sens de ce fameux travail. Il est d'ailleurs souvent confondu, ce travail, avec l'emploi, et présenté comme une obligation. Une obligation surtout depuis que l'oisiveté est mère de tous les vices. D'ailleurs, l'Église catholique a toujours soutenu le capitalisme dans sa mise en œuvre du travail salarié. Même si de temps en temps il était dit « il y a une doctrine sociale de l'Église qui est pondue au début du XXe siècle et qui est censée tordre le cou à un certain nombre de dérives de ce capitalisme envers les ressources humaines. Les forces de l'ordre aussi sont le bras armé de l'État qui organise l'exploitation des masses. On l'a encore vu ce 1er mai, avec des charges en veux-tu en voilà, que ça soit à Nantes, à Paris ou à Lyon. Voilà pour le cadre. Si un jour était écrit un livre noir du travail, en exergue, on pourrait lire ce qui se chante maintenant.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
En effet, le travail fatigue. Oui, il abîme également, il blesse, il détruit, voire il tue. Depuis 1996, le 28 avril, est la journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. C'est aussi la journée internationale de la santé et de la sécurité au travail. Mais à cette occasion, nous avons rencontré le président de l'ADEVA, Monsieur Pascal Luret, pour le dépôt d'une gerbe au pied de la plaque des victimes de l'amiante située sur un mur de la maison de quartier Pierre Guédou, quartier Gare Sud. Pourquoi là ? On va le savoir incessamment sous peu, mais avant tout, Monsieur Luret se présente lui-même.
Je suis Pascal Luret, je suis président de l'ADEVA 72. Alors l'ADEVA, c'est l'association de défense des victimes de l'amiante et autres maladies professionnelles. On fait l'amiante et toutes les maladies professionnelles aussi.
Et il nous présente son association. Enfin, l'association dont il est le président, c'est pas la sienne.
L'association s'est formée il y a plus de 20 ans, après l'interdiction de l'amiante en 1997. C'était des anciens du CHSCT de chez Renault qui ont commencé à faire l'association. C'était dédié au départ aux gens de chez Renault. Et petit à petit, il y a eu les cheminots qui sont greffés à l'association. Et après, on s'est élargi sur toute la Sarthe. Et puis en plus, notre association, c'est une association maintenant départementale. Et notre association nationale, c'est l'ANDEVA, qui est à Vincennes, d'où on dépend.
Actuellement, vous êtes combien dans l'association ?
Alors, on est 16 bénévoles dans l'association. On a 200 adhérents à peu près. Alors, on s'est élargi depuis la disparition des CHSCT. On s'est élargi à toutes les autres maladies professionnelles. Parce que pour reconnaître une maladie de l'amiante au départ en maladie professionnelle, le système de reconnaissance, c'est le même que pour les autres maladies. Donc avec les disparitions des CHSCT, les syndicats sont venus nous voir et on est là pour les aider aujourd'hui.
En effet, les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ont été remplacés par le comité social et économique, CSE, depuis le 1er janvier 2020. Ce fut surtout l'occasion pour les libéraux en économie, qui ont toujours été les macronistes, de réduire comme peau de chagrin la place des représentations du personnel en fusionnant les CHSCT, les délégués du personnel et les comités d'entreprise dans le fameux comité social et économique. C'était une manière de réduire les heures de délégation qui permettent aux salariés de défendre leurs droits et le code du travail. L'ADEVA, donc, je rappelle son intitulé, l'Association de défense des victimes de l'amiante Sarthe et autres maladies professionnelles qui ont été ajoutées à suivre, travaille sur toutes les maladies professionnelles, mais surtout sur l'amiante. On retrouve Pascal Luret sur le sujet.
L'amiante, comment se fait-il que ce produit soit si présent chez les victimes du travail ?
Alors, il faut savoir que jusqu'en 1997, les gens manipulaient de l'amiante dans toutes les entreprises. De l'amiante, il y en avait partout. Nous, au Mans, dans la Sarthe plus particulièrement, la grosse entreprise où il y avait le plus d'amiante, c'est l'usine Renault. Parce que l'usine Renault, tous les freins de voiture et les peintures, c'était à base d'amiante à l'époque. Et puis, bon, bah, autrement, il y a le fameux site qu'on connaît en ce moment qui va fermer Valeo, qui est reconnu site amianté. Il y avait aussi dans le temps, il y avait Philips, qui était aussi un site amianté, il y avait beaucoup d'amiante aussi. Et puis ici, on est à l'endroit où il y avait l'usine Carré les Fouchés, qu'on appelait, et c'est eux qui faisaient, ben, entre autres, des wagons pour les chemins de fer, où il y avait de l'amiante en protection dans les wagons.
Donc ça veut dire que toutes ces personnes qui travaillaient dans toutes ces entreprises manipulaient un produit dangereux sans savoir véritablement qu'il l'était.
Ils ne savaient pas que c'était dangereux, et ils n'avaient surtout aucun moyen de protection. Alors il faut savoir aussi qu'une fibre d'amiante inhalée, à un moment donné, qui reste dans notre organisme, provoque un cancer 20 ou 30 ans plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les salariés qui sont au manipulé de l'amiante, qui sont contaminés, maintenant qu'ils sont en retraite, bah malheureusement, ils sont malades de l'amiante et malheureusement, les trois quarts décèdent aussi de l'amiante, de ce cancer.
Des cancers qui touchent de nombreux organes, mais plus particulièrement les poumons et la plèvre. Actuellement, entre 2000 et 3000 décès sont dus à l'amiante chaque année en France. Mais là n'est pas le pire.
Il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions de tonnes d'amiante dissimulées partout dans les bâtiments, dans les murs, dans les sols, dans les faux plafonds, partout. Toutes les constructions qui ont été faites avant 1997. C'est-à-dire cette amiante-là, ça, depuis ce temps-là, là, elle commence à se désagréger. C'est-à-dire des fibres d'amiante se baladent dans toutes les pièces où il y a eu de l'amiante. Et les gens, malheureusement, ils respirent ça. Aujourd'hui, ils respirent. Et ça veut dire que dans 20 ou 30 ans, toute la population française risque d'être contaminée par l'amiante, par une fibre qu'ils auront respirée à un moment donné. Et dans 20 ou 30 ans, on estime à plus de 100 000 décès à cause de l'amiante.
Alors, quelles sont les conséquences du fait de respirer de l'amiante ?
Alors, l'amiante, cette fibre-là, elle va aller dans votre organisme et c'est une fibre qui se désagrège pour qu'il reste. Et au bout de 20 ou 30 ans, elle se transforme en cancer. Alors, aujourd'hui, on a le cancer des poumons, mais comme c'est une petite fibre qui est 500 fois plus petite qu'un cheveu, elle arrive à traverser les poumons, d'aller dans le sang et à se balader dans tout l'organisme, si bien tous les organes peuvent être contaminés aujourd'hui par l'amiante.
Puisque vous parliez de dossiers, de fait, les gens qui sont victimes de l'amiante et d'autres maladies peuvent être indemnisés.
Alors, il faut savoir que l'amiante, c'est la seule maladie qui est indemnisable. Ce qu'on appelle le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA. Alors, il y en a une autre qui commence à être indemnisée, c'est ceux qui sont malades des pesticides. Ils commencent à être indemnisés depuis 2 ans, là. Bon, après, pour le moment, on n'en a pas dans notre association, mais peut-être que ça va venir aussi un jour.
À propos des pesticides, les auditeurs fidèles auront compris qu'on parlait donc du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides dont nous avons déjà parlé dans des épisodes précédents. Alors les écoles, les bâtiments administratifs, les logements, etc., tous les bâtiments construits avant 1997 sont potentiellement contaminés par de l'amiante. À ce propos, tous les bâtiments recevant du public, donc là, pas forcément les logements, hein, doivent avoir un DTA, un dossier technique amiante. Ce document constate la présence ou pas de l'amiante. C'est un document officiel que doit maintenir à votre disposition toutes les mairies, les rectorats, etc. Tous ceux qui sont en charge d'accueillir du public. Et c'est un document de base pour se battre pour le désamiantage plutôt que de respirer régulièrement ces fibres d'amiante. Les fibres en question, on peut les retrouver à d'autres endroits, notamment dans des dépôts sauvages. Pourquoi ? Eh bien parce que l'amiante a pu se retrouver notamment dans des éléments de construction pour faire de l'isolation. Et donc, il y avait des produits en fibros. Hein. Les fibros en question contenaient de l'amiante. Et plutôt que de s'en débarrasser gratuitement dans les déchetteries mensuelles autour du Mans, il faut aller voir une entreprise à Champagné qui s'appelle Colas et qui vous facture environ 300 euros les 100 kilos. Alors, pas mal de gens se disent si on balançait ça dans le coin d'un champ, voilà, et on dit rien à personne. Les adhérents de l'ADEVA vont régulièrement faire des petits tours là où on leur a indiqué qu'il y avait des dépôts sauvages d'amiante, enfin de produits contenant de l'amiante. Alors ils demandent, c'est l'une de leurs revendications, ils demandent à ce que les dépôts d'amiante soient accueillis gratuitement dans les déchetteries étant donné la dangerosité du produit. À ce moment de l'interview est arrivée une nouvelle intervenante pour seconder Pascal Luret. On écoute tout ce beau monde.
Moi, je suis Sonia Hertz. Je suis membre de l'administration administration de l'ADEVA et je m'occupe des dossiers plus particulièrement.
Et vous vouliez donc ajouter à propos des autres maladies professionnelles, bon, même si elles ne sont pas indemnisables, il faut qu'elles soient reconnues.
Oui, parce que quand elles sont reconnues, elles sont indemnisables par la Sécurité sociale. Le FIVA, il est spécialiste de l'amiante. Il indemnise les gens qui sont atteints par l'amiante. Par contre, à la Sécu, toutes les maladies qui rentrent dans des tableaux de maladies professionnelles, eux, peuvent être indemnisés selon le taux d'incapacité permanente qui est attribué par la Sécurité sociale. Les TMS, j'en oublie le dos...
La psychique aussi, beaucoup voilà. De psychique en ce moment, avec les fameux burn-out et tout ça, ça c'est rentré dans une maladie professionnelle, tout ça, ça en fait partie. Donc on aide les gens à déclarer et à faire reconnaître leur maladie.
Malheureusement, avec ce qu'on entend, c'est-à-dire le vieillissement de la population, les conditions de travail de plus en plus difficiles, etc., vous devez avoir pas mal de boulot malheureusement.
Le souci, c'est qu'il y a une forte sous-déclaration parce que les médecins ne font pas forcément la déclaration comme elle doit être faite. Et souvent, lorsqu'on reçoit le certificat médical initial, il n'est pas écrit correctement par rapport aux tableaux qui sont indemnisés. Donc il faut déjà se battre pour obtenir ce certificat médical initial. Et ensuite, on a beaucoup de documents à remplir. C'est pour ça qu'on est là, pour aider les gens. On a beaucoup de documents à remplir pour prouver que cette personne, si elle est malade, c'est à cause de son travail. Et c'est à ça qu'on sert, c'est à faire ses dossiers.
Et est-ce que vous avez, alors je reviens sur ma question, est-ce que vous avez vu une augmentation, puisque vous dites que ça fait une vingtaine d'années que vous existez, ou pas ?
Les décès déjà. En moyenne, 2 morts par jour au travail en ce moment. Et les maladies professionnelles, on arrive à plus de 200 par jour, maladies professionnelles déclarées, reconnues. Reconnues par la Sécurité sociale. Mais il n'y a pas que la Sécurité sociale comme caisse, il y a d'autres caisses aussi. Et cela, on n'a pas les chiffres des autres caisses. Alors on a le rapport de 2023, parce que celui de 2024 n'est pas encore sorti. Et entre 2022 et 2023, il y a plus de 25% d'augmentation de TMS. Et je vois, là, tout à l'heure, on était à l'hôpital. C'est les gens qui transportent les malades, qui manipulent les malades et tout ça. Il y a beaucoup de TMS à l'hôpital, par exemple.
Il faudrait surtout qu'il y ait de la prévention à un autre niveau dans les entreprises que ce qu'elle est. Si les gens étaient protégés correctement, si on appliquait toutes les règles de sécurité, on aurait certainement beaucoup moins d'accidents et de maladies professionnelles.
Beaucoup moins d'accidents, de maladies professionnelles, ça implique bien que le travail tue 2 morts par jour liées au travail, des centaines de personnes blessées ou des centaines de personnes également par jour qui sont reconnues comme étant malades du fait de leur travail. Hein. Parler des TMS, les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est lié au déplacement de charges lourdes, au déplacement de charges tout court. Donc ça ne m'étonne pas que ceux qui manipulent les malades à l'hôpital se retrouvent dans ces situations. Mais aussi tout ce qui est gestes répétitifs. Des TMS sont liés par exemple à ceux qui travaillent dans les abattoirs, à ceux qui travaillent également comme hôtes et hôtesses de caisse. Voilà, il y a un certain nombre de métiers dans lesquels on va retrouver des ressources humaines qui sont abîmées par leur activité quotidienne qui leur permet tout simplement de gagner leur vie. Je vous rappelle qu'il existe une personne qui recense les accidents du travail, les morts au travail et qui a un compte Twitter et un compte également Facebook. Vous pouvez chercher du accident, DU accident. Et là, vous tomberez malheureusement sur un certain nombre de postes où à chaque fois, on vous présente une histoire avec une personne qui est décédée du fait de son travail. Donc le travail tue, la Sécu, la MSA, etc. nous le disent. Alors pourquoi ne pas abolir le travail ? Eh bien, peut-être que c'est une idée à creuser. Abolition du travail, nous verrons ça la prochaine fois. Que vous dire de plus ? Eh bien qu'il y a ce samedi 3 mai à 18h les Rastas du Cœur, un concert solidaire qui est organisé à la MLC Les Saulnières, avenue Rhin et Danube. Les Rastas du Cœur, le principe c'est 5 kilos de denrées alimentaires et ou de produits d'hygiène. On peut mixer et c'est ça qui sert de prix d'entrée pour pouvoir venir voir un certain nombre d'artistes qui, comme le nom du concert l'indique, vont plutôt faire du reggae, ragamuffin, etc. C'est le samedi 3 mai 2025 à 18h à la MLC Les Saulnières. Ramenez vos 5 kilos de denrées alimentaires et ou de produits d'hygiène pour entrer. Le 8 mai, jeudi 8 mai, au programme d'une action antimilitariste et décolonialiste, rassemblement manifestation à 18h30 place de la République à Le Mans, le jeudi 8 mai, et à suivre à 20h à la... Je vais retrouver... Oui, c'est bien ça, c'est à la Maison des citoyens, citoyennes, place des Comtes du Maine. À partir de 19h30, accueil, info kiosque et repas partagé. Chacun amène ce qu'il va boire et manger et ce qu'il veut partager. 20h, ciné-discussion autour d'un documentaire qui s'intitule « Le blanchiment des troupes coloniales ». Et à 21h15, un autre documentaire, « Les massacres de Sétif », un certain 8 mai 1945, un documentaire qui date de 1995. Eh bien, tout ça est à l'initiative de l'Assemblée Générale Antifasciste de la Sarthe. Ça se passe le 8 mai 2025, place de la République à partir de 18h30 et à partir de 19h30 à la Maison des citoyens, citoyennes, place des Comtes du Maine. Eh bien, du coup, on va se quitter, mais une fois n'est pas coutume, on va se passer un petit titre, un titre de Sexy Sushi. Sexy Sushi, pour certains, vous connaissez Rebecca Warrior, mais vous connaissez aussi Mansfield Tia. Eh bien, la voilà. Celui qui est au platine, j'ai carrément perdu son nom. Dans l'avant-dernier album qu'ils ont pondu, où ils étaient déguisés en schtroumpf, eh bien, il y avait un titre qui s'intitulait « Je refuse de travailler », avec une introduction énorme et très très longue que je vous laisse, dont je vous laisse le profit. Allez, au revoir.